On va terminer là dans quelques minutes l'émission et je voulais, alors que je retrouve mon... Oui, voilà. Entre autres, depuis quelques années, il y a une commission mobilisation des travailleurs sociaux qui s'est constituée à partir de Nuit Debout, qui est un collectif de syndiqués, de non-syndiqués, et puis qui tient depuis des années, qui est national. Il n'existe pas dans tous les départements, mais enfin, en tout cas dans l'Île-de-France et dans pas mal de départements, il existe. Donc il est constitué de syndiqués et de non-syndiqués, avec le soutien de plusieurs organisations syndicales. Et puis, il essaie de se faire connaître, d'alerter le milieu professionnel, les étudiants. Il organise des journées d'action, pas mal de mobilisations avec des grèves, notamment avec tous les événements qui viennent de se passer au niveau de la réforme des retraites, etc. Mais pas que. Donc, il s'allie avec les mobilisations en cours interprofessionnelles, et il organise aussi ce collectif, ses propres mobilisations. Et donc il y en a la prochaine mobilisation pour le secteur social et médico-social a lieu le 23 mai. Et donc un rendez-vous est posé à 13h30, mardi 20, je ne sais pas si c'est un mardi, le 23 mai. Un rendez-vous est posé au siège de la FEAP. La FEAP, c'est la Fédération des établissements hospitaliers et l'aide à la personne privée solidaire. C'est des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privée, des établissements privés solidaires. C'est le lieu de négociation des conventions collectives pour le secteur privé. Donc voilà, l'appel est un rassemblement donc au siège de la FEAP qui se trouve 179 rue de Lourmel à Paris à 13h30 avec une manifestation qui continuera. Ce n'est pas encore... Le complètement déterminé. Pour les personnes qui sont intéressées, elles vont sur Google, Commission Mobilisation du Travail Social Île-de-France, et elles auront plus d'informations. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un collectif qui a des revendications matérielles en termes de statut, de salaire, etc., mais aussi qui pose le problème du sens du travail, ce qu'on a abordé quand même aussi aujourd'hui, que les travailleurs sociaux sont quand même empêchés dans beaucoup, beaucoup d'endroits d'exercer leur travail. Alors, bien sûr, il y a un manque de moyens énorme. Énormément de postes sont vacants dans tous les secteurs, mais aussi on les enferme dans des contraintes notamment de procédures qui ne servent à rien et qui bloquent l'exercice du travail. C'est difficile qu'ils exercent dans des conditions qui tiennent compte à minima de la clinique du sujet, de l'éthique. Donc la revendication porte aussi sur ces questions-là. Donc c'est cet appel. C'est vrai que ils ont un site qu'on peut regarder. Mais écoutez, oui, on arrête là l'émission. On arrive enfin, et puis rendez-vous le mois prochain, le troisième vendredi. Bonsoir.
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 Et le bouquin, là, vous l'avez en...
Bonsoir.
sortir de sa cage et partir loin là-bas. N'être pas trop sage et aller au-delà. Pour y trouver quoi? Rien de plus qu'ici, juste un temps plus froid. Quel drôle de pays. Sortir de sa rage, fait-il vraiment si froid? Chercher le passage qui mène près de là. Pour ce que j'en crois, l'avenir cherche son pas. Rien de plus là-bas, juste un monde qui te reste sur les bras.
Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des Amis d'Orwell.
C'était la patrouille de police qui fouinait en regardant à travers les fenêtres des
chambres.
Seul comptait
only the thought police matter.
La police de la pensée.
Ce soir, on vous emmène sur le plateau de Saclay, un immense espace de terre fertile au sud de Paris. Un espace déjà massacré pour installer un énorme pôle scientifique, hein, c'est l'université Paris-Saclay. Et depuis 2 ans, une petite zone à défendre s'y est installée pour tenter de bloquer un autre chantier, cette fois à 5 milliards, une ligne de métro du Grand Paris Express. Cette ZAD, c'est Saclay, et le week-end dernier, il y avait 2 jours d'action festive et déterminée. Nous y étions dimanche 14 mai. Il y avait d'ailleurs une assemblée interlutte en Ile-de-France. Et on en a profité pour faire le point sur la lutte des jardins à défendre d'Aubervilliers qui ont remporté une victoire bien amère l'an dernier.
La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police.
Sur le plateau de Saclay, dans l'Essonne, au sud de Paris, on se bat depuis 20 ans contre la course au béton du Grand Paris. Le collectif pour la préservation des terres de Saclay a été d'ailleurs cofondateur de la COSTIF, hein, qui était la première assemblée interlude d'Île-de-France contre les grands projets dévastateurs, notamment ceux du Grand Paris. C'était au début des années 2010. Et à Saclay, depuis 2 ans, la lutte prend racine sur un bout de terrain privé, des terres agricoles prêtées par des sympathisants agriculteurs. Il y a quelques constructions en bois, une cantine collective, des habitats mobiles. La ZAD de Saclay se situe surtout à 2 pas du tracé de la ligne 18 qui fait partie du prochain réseau Grand Paris Express. Et bien dimanche dernier, symboliquement, les opposants sont allés sur une parcelle du Grand Paris pour y installer une charpente en bois qui devait abriter une petite grange. Et ben ça n'a pas duré longtemps puisque 2 jours plus tard, hein, c'était mardi dernier, la maréchaussée est venue laver l'affront en détruisant ce frêle édifice à coups de pelleteuse. Derrière, hein, d'ailleurs, vous entendez le craquement des planches de bois défoncées par l'engin de chantier, le tout protégé par quelques Playmobil en armure. C'est l'extrait d'ailleurs d'une vidéo qu'on peut voir sur le site du collectif nonalaligne18.fr.
Ça,
C'était donc mardi, et deux jours plus tôt, donc nous étions sur place. Nous avons rencontré sur la ZAD de Zaclay Loïc et Lucille, deux des membres du collectif.
C'est un camp contre la ligne 18, situé juste à côté du CEA, sur la commune de Villiers-le-Bacle. On est sur le terrain d'agriculteurs et agricultrices qui nous soutiennent, qui nous ont demandé de venir faire quelque chose pour essayer de visibiliser la lutte. Et donc voilà, on a créé ce lieu de lutte il y a presque 2 ans. Aujourd'hui, on est le 14 mai, dans une semaine, on fêtera les 2 ans de Zaclay. Et malheureusement, ça risque aussi d'être la fin de ce lieu de lutte, puisqu'on nous a demandé de partir d'ici le 5 juin, avant le début des poursuites.
Et ce camp, du coup, il est à l'initiative du collectif contre la ligne 18 et l'artificialisation des terres. C'est toujours dur à dire ce mot, surtout qu'on n'aime pas. Et en fait, le collectif avait été créé 6 mois avant le début du camp de Zaclay, en fait. Et donc ce collectif, qui date d'octobre 2020, fait suite à des années et des années de lutte sur le plateau de Zaclay pour défendre les terres agricoles. En fait, du côté de Paris-Saclay, l'université, il y a environ 400 hectares qui ont déjà été artificialisés, détruites. Et là, donc nous, on est plus à l'ouest du plateau, entre Zaclay et Versailles, là où il y a le dernier tronçon de la ligne 18 dont les travaux n'ont pas encore commencé. Parce que si on voit du côté de l'autre côté, du côté est, on voit déjà le viaduc et tout. De notre côté, c'est pas encore commencé, et justement c'est imminent, et c'est maintenant que ça se joue. Voilà.
Donc le viaduc là que l'on voit justement en arrivant ici, c'est ça, c'est...
Oui, c'est la ligne 18 du Grand Paris Express, pardon, qui sera sur ce viaduc. C'est un métro automatique qui peut transporter 40 000 personnes par heure. Ouais, sachant que les besoins se chiffrent plutôt autour de 6 000.
En heure de pointe.
En heure de pointe. Donc aujourd'hui, il y a une petite annonce.
La cuisine de ce soir, il y a un départ à 16 heures. Il y a besoin de 15 personnes. Voilà. Donc c'est des gens qui sont motivés pour faire la cuisine ce soir, n'hésitez pas, on a besoin de monde.
Voilà, c'est en direct, hein, c'est de la co-organisation, chaque moment un appel.
Ouais, venez en tant que bénévole au prochain événement, on a besoin
de
bras.
La semaine prochaine, vous invitez aussi les gens à rester.
C'est ça, et le but c'est de parler de l'agriculture paysanne, quelque chose qui manque un peu sur le plateau de Zaclay, mais on espère que ça va se développer. Et même si c'est pas spécialement parlé pour ce territoire-là, c'est en parler de manière générale.
Oui, parce que c'est important de défendre les terres agricoles, mais c'est aussi important de défendre quel modèle d'agriculture on veut. Par exemple, les agriculteurs qui nous accueillent sont membres de la Confédération Paysanne, ont une partie de leur culture en bio, ont fondé une AMAP. Donc voilà, c'est dans cette dynamique-là qu'on souhaite aussi, voilà, au-delà du message, on défend les terres agricoles, mais aussi on veut un certain modèle d'agriculture.
Voilà. Derrière, j'ai vu qu'il y a cette fameuse grange qui est en train d'être construite, là. Et c'est donc sur le parcours du viaduc, c'est ça ?
En fait, la ligne 18 ne sera plus en viaduc à partir de juste là, Christ de Zaclay. Elle va être au sol.
Serait. Parce qu'elle n'aura pas lieu, donc on, voilà, on reste dans le domaine
vrai,
des idées.
Il faut parler au conditionnel.
Ok, mais pourquoi il y a ce viaduc en fait ?
Non, mais il y a aussi une histoire de coût. Donc déjà, cette ligne 18, elle coûte à peu près 5 milliards d'euros dans sa totalité, donc c'est vraiment énorme. Et en fait, à des endroits stratégiques comme passer sous un golfe, là, ils sont d'accord pour creuser. Ou dans les parties vraiment denses comme à Massy, ils creusent avec un tunnel, ce qui coûte très cher. Mais par contre, pour passer au milieu des champs, évidemment, donc vu que les champs n'ont aucune valeur à leurs yeux, aux yeux des aménageurs, et ben voilà, on fait la solution la moins chère, qui est de passer au sol, et donc d'empêcher notamment les engins agricoles de passer.
Voilà. Oui, pour compléter, du coup, avant c'est en pilier aussi pour pouvoir passer les routes, franchir les routes facilement. Et puis c'est pas parce qu'on dit que s'il est en souterrain, ça abîmerait moins les champs, que c'est bien aussi. Hein. Enfin, faut rappeler que passer en souterrain, c'est des millions et des millions de mètres cubes de béton utilisés pour faire ça. Et le béton, c'est un bilan carbone de merde. Mais de toute façon, cette ligne aura un bilan carbone de merde qui ne sera jamais compensé. Ça, c'est pas le peu de passagers, passagères qui arriveront à le prendre, qui vont permettre d'empêcher les gens de prendre la voiture. S'ils voulaient vraiment empêcher les gens de prendre la voiture, ils auraient fait un transport en commun qui s'arrête au niveau de là où il y a de la population.
C'est ça.
Là, par exemple, du coup, sur le tronçon qu'ils voudraient faire après Zaclay, Ça va faire 7 km, ça va passer à côté de Villiers-le-Bac, pas très loin de Toussus-le-Noble, tout ça. Et il n'y a aucun arrêt, ça s'arrête dans des zones d'activité. La seule gare qui est vraiment là où il y a de la population, enfin les deux seules, c'est Massy et Massy RER. Slash TGV et Massy Opéra. Et encore Massy RER, c'est parce qu'il y a le RERB et le RERC. Ils avaient juste Massy Opéra, oui, c'est vraiment parce qu'il y a de la population. Et là, ils n'ont pas fait des trucs pour essayer de prendre les gens qui travaillent, leur empêcher de prendre la voiture. Non, c'est fait dans une idée de relier des pôles d'activité.
On construit des pôles d'activité, donc déjà en détruisant pas mal de ressources. Et là, derrière, on construit des lignes pour justement que les gens viennent travailler sur place et retournent chez eux, en fait. Mais la ligne 18, elle est donc censée faire le tour de sud de Paris, c'est ça,
La partie sud-ouest.
Ouais. Entre Orly et Versailles. Ouais. C'est Orly, ah oui, Versailles, d'accord. En passant par Massy et Saclay. Voilà.
Et là, ils ont lancé les études d'impact. Enfin, ils sont en train de dire qu'ils vont lancer les études d'impact pour continuer le tronçon, parce que leur idée derrière, donc, ce serait d'aller à Versailles à 2030, mais encore après, c'est de faire remonter ça à Nanterre, et pas la Défense, hein, parce que c'était un peu ce qui était dit, ce qui avait été voulu à un moment par des élus, histoire de dire, voilà, ça permet d'avoir des gens, par exemple, de l'Essonne, qui iraient facilement à la Défense sans avoir à passer par Paris. Non, ça va à Nanterre-la-Folie, une nouvelle gare qui va être construite pour le RERE. C'est pas exactement la Défense, c'est pas très loin. Mais aussi, il faut rappeler quand même que pour faire Versailles-La Défense, il y a déjà un train qui existe, ça s'appelle le Transilien U, je crois, je sais plus si c'est le H ou le U, je crois que c'est le U.
Ça existe,
alors certes, pareil, il y a des arrêts, mais voilà, il y a déjà des transports qui existent.
Là, on assiste à la même type d'aberration que dans le nord de Paris, autour du triangle de Gonesse, non, c'est ça ? Ils ont abandonné leur projet complètement débile d'Europa City, mais ils maintiennent encore leur truc de faire une gare en plein champ pour...
Oui, exactement. Et d'ailleurs, les membres du collectif pour les terres de Gonesse sont actuellement ici sur le... Enfin, en tout cas, des membres. Parce qu'il y a l'Assemblée des luttes locales d'Île-de-France qui se tient en ce moment même. Donc, oui, on entretient des liens assez forts avec Gonesse. Il y a aussi un appel qui avait été signé dans la presse, dans Le Monde, pour faire classer les terres de Saclay et de Gonesse, qui ont vraiment des caractéristiques au niveau du sol vraiment exceptionnelles et qui permettent de bons rendements. Hein. C'est pas un hasard si l'Île-de-France est aussi peuplée, c'est qu'il y avait des terres très fertiles autour qui permettaient à la population de s'alimenter. Et donc, voilà, faire classer ces terres au patrimoine mondial de l'humanité, ce qui peut faire... Enfin, voilà, ça fait sourire, ouais, c'est très ambitieux. Pas, hein. Mais bon, d'une part, ça permet de faire parler de la chose et de montrer que ces terres vraiment font partie aussi de notre patrimoine culturel et que ces sols sont exceptionnels. Voilà. Et donc, du coup, on avait fait une action devant le siège de l'UNESCO au mois de mars, okay. pour montrer qu'on veut que ces terres soient sanctuarisées, soient protégées avec un geste fort du gouvernement et de l'État. Voilà.
Sur le débat de l'artificialisation des sols, on a l'impression que ça peut paraître évident. Et puis en plus, je crois qu'il y a un plan gouvernemental pour faire une espèce de plancher, quoi, de ne plus artificialiser. Et quand on continue à constater tout ça, bon, je parle même pas de tout ce qui est des projets autoroutiers. Quand vous avez en face de vous, je sais pas, des élus ou des gens qui sont entre les... qui peuvent avoir les mains dans une partie du pouvoir, qu'est-ce qu'ils vous répondent à ça en disant
Alors déjà, dans la bouche du gouvernement et des élus, souvent, ce qu'on parle, c'est de zéro artificialisation nette. Ouais. Zéro artificialisation nette, dans leur idée, c'est si je débétonne un endroit, j'ai le droit de bétonner un autre. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Les terres, quand on les bétonne, on perd leur qualité. Ça met des dizaines, voire des centaines d'années à se régénérer la qualité de ces terres, voire même milliers. Ça dépend combien de temps les abîme. Mais voilà, c'est pas un simple jeu comptable, c'est pas des écritures comptables. Je mets un plus, je mets un moins, et puis hop, c'est bon, ça s'équilibre. Donc ce qu'il faut, c'est du zéro artificialisation brute, ou en tout cas le tendre vers ça un maximum. Parce que la compensation, ça ne marche pas. La compensation, on pense pas aux organismes, aux micro-organismes qui sont sous le sol, au sol et sous le sol, qui eux se retrouvent, une fois qu'on a bétonné, ils sont privés d'oxygène, ils meurent petit à petit. Et eux, c'est eux qui participent à aussi maintenir des espaces vert et frais. Donc déjà, c'est très dur d'avoir des élus, ils ne sont pas sensibilisés à ça, donc c'est dur d'avoir des élus qui comprennent ça.
On en a
quelques-uns, heureusement.
Hier, il y avait un député européen, Benoît Biteau, qui était là.
Il est paysan aussi.
Il y a un député des Yvelines qui a fait un communiqué pour soutenir la lutte. Donc on a quelques élus, mais bon, il faut, malheureusement, c'est souvent des élus d'opposition, donc ouais, qui ont une marge de manœuvre qui est assez faible. Ouais.
Et puis en plus, les élus, ce qu'ils voient, c'est on parle d'emploi, tout ça. À chaque fois, on est encore, et il faut de l'emploi, hein, que les gens travaillent. Je suis pas contre, moi, mais c'est, donc ça fait briller les yeux. Sauf que ce qu'il faut rappeler, c'est que là, on n'a pas fait de la création d'emploi, on a fait du déplacement, voire de la suppression d'emploi. Ce qui est arrivé sur le plateau de Saclay, le labo recherche et développement de EDF, Danone, Sanofi, voilà, c'est pas de la création d'emplois, c'est des emplois qui existaient déjà, mais ailleurs. Et pour ce qui est de la concentration de l'université Paris-Saclay, de plein de composantes, de ramener les écoles d'ingé, tout ça, à concentrer les composantes, l'idée derrière est de faire de la contraction de coûts. Les gens qui font double emploi, on va pas les garder longtemps, quoi. Donc c'est encore dans une idée de contraction des coûts, et au lieu de créer de l'emploi, c'est d'en détruire au final.
Pour continuer sur la zéro artificialisation nette, hier on a fait une petite conférence de presse, il y avait Chloé Gerbier, donc, qui est cofondatrice de Terre de Lutte, qui soutient toutes les luttes locales en France, qui a eu cette expression de dire qu'en fait c'est cette loi, comme la loi climat, ce sont des gruyères en fait, c'est-à-dire qu'il y a des exceptions partout. Ici par exemple, on est sur une opération d'intérêt national qui a été déclarée, je pourrais plus vous dire l'année, mais il y a plusieurs années. Et donc, en fait, toutes les terres artificialisées sur Paris-Saclay ne sont pas décomptées dans cette loi zéro.
C'est comme une opération blanche, comme si ça n'existait pas.
Comme si ça n'existait pas. Donc, du coup, voilà, c'est des projets qui sont au-dessus des lois nationales et des exceptions. Je pense qu'on peut en trouver pas mal en France. D'autant plus que c'est des objectifs à chaque fois qui sont A pour 2030, A pour 2050. Et tous les projets qui sont déjà en cours, en fait, ils ne sont pas comptabilisés là-dedans. Donc en fait, tous ces projets d'un autre temps, comme la ligne 18 ici sur le plateau de Saclay, on les continue, même si tout le monde trouve que ça n'a plus aucun sens en pleine crise climatique, quoi.
C'est vrai que l'intérêt national, c'est un peu comme la raison d'État, en fait. On la décrète quand on n'a plus d'autres moyens pour imposer un projet. Vous voyez, c'est un peu ça, non ?
Oui, c'est ça. Enfin, normalement, déjà, on a un texte qui s'appelle la Charte de l'environnement. Le Code de l'environnement, pardon, qui dit, dans un article, j'ai plus le numéro, mais si on a une séquence, ils adorent en parler, ERC, éviter, réduire, compenser. Ouais. On évite de faire un impact. Si on ne peut pas l'éviter, on le réduit. Et si on ne peut pas, on le compense. Bon, souvent, ils voient d'abord l'idée compenser. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, compenser, c'est très centré sur l'humain. On compense ce qu'on voit. Voilà, ce qui se passe en dessous du sol, on ne le voit pas, on n'y pense pas. Eux, voilà, et je pense que dans la tête des politiques et des gens qui font ça, c'est compenser, c'est facile. C'est juste écrire des écritures comptables. On va faire un petit plus pour compenser un moins, et puis ça passe. Et en fait, en pratique, on voit que ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Le Muséum d'Histoire Naturelle avait déjà fait des notes là-dessus qui disent ça ne marche pas. Et pourtant, on continue. Et là, normalement, ça a valeur constitutionnelle. Ça, on n'a pas le droit de s'attaquer, on n'a pas lancé des projets si ça ne peut pas respecter cette séquence. Et pourtant, opération internationale, on a le droit, on le fait quand même.
Ouais, ça fait partie de ces petites procédures un peu alibi, quoi, qui sont mises en avant pour dire on a le droit. Mais alors, pour revenir sur le terrain où nous sommes ici, donc à deux pas du centre CEA de Saclay, donc c'est un terrain privé, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Donc c'est des agriculteurs qui prêtent un bout de leur champ, parce que vous voyez, en fait, dès qu'on sort, enfin voilà, je sais pas combien de mètres carrés il y a là. Non, je pense pas que ce soit du maïs, quoique on peut faire pousser du maïs sans arrosage ici sur le plateau de Saclay, qui est assez exceptionnel. En fait, il y a une couche d'argile qui est imperméable en dessous, qui permet de retenir l'eau. D'ailleurs, en fait, le plateau de Saclay, c'était un marécage il y a très très longtemps, et donc c'est toujours actuellement drainé. Donc en fait, on peut faire pousser du maïs sans irrigation.
C'est mieux de le faire pousser ici que dans les Deux-Sèvres, c'est ça?
Exactement. S'il y a un endroit pour faire pousser du maïs un peu, c'est ici.
Après, c'est pas en monoculture, hein. C'est pas un modèle non plus qui est qu'on a envie de défendre.
Non,
on sait que c'est pas
évidemment.
Voilà, si on doit faire du maïs, autant le faire là où il y a de l'eau.
C'est ça. c'était dans ce sens-là.
Mais donc, comment vous expliquez qu'en fait, qui vous a demandé de partir, en fait, il y a une pression des pouvoirs publics là-dessus?
Ouais, là, actuellement, c'est la préfecture. Donc, on a eu des agents de la préfecture qui sont passés il y a déjà un an pour constater. Donc, voilà, on avait construit des cabanes. On les a fait en dépit du PLU. On a construit ça sans demander l'accord à la mairie. On n'a pas fait de... Voilà, tout un tas de choses comme ça. Et donc, aujourd'hui, ils nous demandent de partir avant de lancer les procédures pour que les amendes...
Avec l'argument des habitations... Enfin, Ils considèrent que ce n'est pas des habitations, ça, si? Ils considèrent que c'est une construction illégale?
C'est une dérogation au code de l'urbanisme.
D'accord.
C'est-à-dire que,
de
en fait.
Un toit en plastique sur.
C'est bon, ça ne bouge pas, c'est.
Un terrain agricole, on a les agriculteurs ont le droit de construire des petits abris pour stocker des choses. Mm-hmm. Si ça a une vocation. S'ils montrent que ça a une vocation pour aider leur activité agricole. Mais il y a des tailles à ne pas dépasser et il faut demander une autorisation. Okay. Voilà, ce qui n'a pas été fait ici.
Donc c'est cet argument juridique est...
Voilà, c'est ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a le risque que les agriculteurs soient poursuivis devant le tribunal administratif. Mais actuellement, en fait, ce qui est assez bizarre, c'est qu'au lieu de justement d'engager des procédures, et auquel cas le collectif est tout à fait prêt à assister les agriculteurs dans ce sens.
Ça, ouais,
payer des frais d'avocat, tout ça. En fait, ce que fait la préfecture, c'est un peu plus vicieux, c'est-à-dire qu'elle menace, enfin, elle prévient les agriculteurs que si la ZAD ne part pas, là, ils auront des procédures. Donc, en fait, ce qu'ils veulent, c'est que la ZACLEP parte silencieusement sans faire de vagues, quoi. Et les agriculteurs, évidemment, bah, ils n'ont pas envie d'avoir des ennuis, ce qu'on peut leur... ce qu'on peut tout à fait comprendre. Voilà.
Donc pour l'instant, le 5 juin, c'est quand même l'échéance où vous devez...
C'est la date qu'on nous a donnée, on va voir comment on va partir. Ouais,
c'est pas encore décidé, quoi. Okay.
De toute façon, le but, on est là pour défendre les terres. Le but, c'est pas qu'elle soit saccagée d'une quelconque manière.
Ouais.
Donc, on va prendre les mesures qui s'imposent. Et
c'est vrai que c'est étonnant de la part d'un préfet qui est censé...
Ouais. Et ce qui est marrant quand même, c'est que ça s'est passé... cette date butoir là, du 5 juin, c'est arrivé quelques jours après les déclarations de Darmanin suite à Sainte-Soline, vous savez, toute fin mars, là, début avril, il n'y aura plus aucune ZAD en France. Et quelques jours après, là, il y a vraiment cet ultimatum qui tombe, quoi. Donc, toutes ces déclarations qui sont faites par le gouvernement, elles ne sont pas anodines, quoi. C'est-à-dire que...
C'est vrai, quand on occupe un terrain public, ouais, les préfets sont pas de cadeaux, quoi, pas de quartier, ils attaquent direct. Là, le fait que vous soyez sur un terrain justement sympathisant, ami, les oblige à aller chercher des articles du code de l'environnement pour vous emmerder, quoi.
Exactement.
Mais sans que la procédure soit officiellement lancée, c'est là, on est presque dans des négociations cordiales, en disant on vous prévient que si jamais ça bouge pas, on va attaquer.
Mais ce qui est vraiment dommage, c'est que Zaclay, donc c'est un lieu emblématique pour la lutte. Ça a permis de revisibiliser cette lutte au niveau national parce que c'était un peu tombé dans l'oubli. Il y a eu d'autres collectifs qui étaient là précédemment, qui ont tenté plus des actions en termes légales et juridiques, qui sont d'ailleurs, il me semble, toujours en cours. Mais là, avec une appétence un peu plus vers des actions de désobéissance civile, voilà, aujourd'hui, on a quand même mis la grange de l'autre côté de la route, donc qui n'est donc plus sur le terrain. Voilà. Donc il y a tout ça qui remet un peu cette lutte, qui remet cette lutte en lumière, quoi. Zaclay, c'est pas seulement un lieu emblématique c'est un lieu emblématique de la lutte, mais c'est aussi un lieu où on échange, on discute, on arrête les gens qui passent. Il y a beaucoup de passants qui passent là. On fait de la pédagogie. On a organisé plein de conférences. On a invité des scientifiques. On fait des lectures collectives. Enfin, des projections. Il y a plein de choses qui sont organisées dans ce lieu. Et il y a aussi des gens qui y vivent, qui développent des réflexions sur d'autres sujets, sur le genre, sur tout type d'oppression. Donc C'est vraiment une grosse perte si Zaclay est obligé de partir. Voilà.
C'est pour ça que ça devient une cible pour le pouvoir, c'est vrai. Ça veut dire que à partir du moment où ils en sont à ces démarches-là, c'est que vous avez un petit peu gagné en termes de combat et de rapport de force, je veux dire.
Ouais, mais d'un côté, on remercie Darmanin. C'est flatteur d'être considéré comme en voie de radicalisation. Ça veut dire qu'on on le met pas à l'aise. Il arrive à faire plus de pubs que nous, quoi. On a parlé de Zaclay à LCI ou des trucs comme ça. On a parlé de comme quoi Zaclay était un lieu de lutte. Après, les gens, s'il faut leur chercher, ils tomberont sur Zaclay. Mais voilà, c'est oui, effectivement, c'est qu'on dérange quand même. Mais voilà, mais peu importe ce qui se passe, même si Zaclay doit partir. La lutte ne s'arrêtera clairement pas là. C'est pas pour autant qu'on arrêtera de lutter.
Les amis d'Orwell étaient dimanche dernier sur la ZAD de Zaclay, dans le sud de Paris. Point d'ancrage de la lutte contre la ligne 18 du futur métro Grand Paris Express.
Plateau de Saclay, c'est assez surréaliste. La ligne du métro sera en partie surélevée sur un énorme viaduc de béton et l'essentiel de ce viaduc est déjà construit. C'est d'ailleurs ce Grand Paris Express qui occupe les opposants au grand projet inutile en Ile-de-France. Souvenez-vous d'Europa City, un mégaloprojet du groupe Auchan qui devait s'installer près de Gonesse dans le Val d'Oise au nord de Paris. Le projet a été enterré, mais là-bas aussi, les aménageurs insistent pour construire une gare de la future ligne 15, cette fois, une gare en plein champ. Et c'est cette même ligne 15 qui enquiquine les habitants d'Aubervilliers, puisque là-bas, ce sont des jardins ouvriers qui ont été détruits pour y construire un solarium à l'occasion des prochains Jeux Olympiques. Mais à Aubervilliers, les militants ont remporté une victoire plutôt amère, puisque le solarium ne se fera jamais. Les tribunaux leur ont donné raison, mais manque de bol, c'était après la destruction des jardins. On écoute Dolores nous raconter cette histoire.
Alors, je m'appelle Dolores, je suis jardinière et je fais partie de ceux qui ont créé le collectif de défense des jardins des vertus.
Jardinière, c'est ça ?
Jardinière, voilà, jardinière.
Tu te présentes comme ça, c'est ta qualité ?
Toujours, je suis jardinière. Alors la lutte des jardins, elle commence à l'été 2020 par rapport à un solarium d'une piscine d'entraînement pour les JO. Solarium qui va venir détruire 4000 m² de jardin. Donc du coup, on va se mobiliser parce que on trouve que c'est impensable pour nous qu'on vienne nous détruire ce paradis, en fait, cette terre fertile, précieuse, petite. C'est 2,25 hectares et on a tout de suite le sentiment, en fait, que c'est un cheval de Troie, que si on les laisse entrer, ils vont poursuivre.
Combien de temps déjà que ça existe, ces jardins ?
Les jardins existent depuis 1920. Et
rien que ça, c'est aberrant.
Rien que ça, c'est incroyable. Et en fait, ce qui reste actuellement des jardins, c'est un petit peu de l'immensité des jardins du début. Parce que les cités qui sont autour, les courtilières qui sont juste de l'autre côté des jardins, c'était des jardins. Tout ça, c'était des jardins. Donc en 1920, c'était des hectares et des hectares. Jusque dans les années 60, 70, c'était encore très grand. Donc c'est vraiment, quand je dis précieux, c'est au sens propre du terme. Parce qu'en fait, ces petits jardins, c'est les héritiers de la plaine maraîchère des Vertus qui était là depuis le Moyen-Âge et qui nourrissait Paris. Et maintenant, si on nous détruit ça, ben, on va nous détruire de la terre pour respirer, de la terre pour manger, de la terre pour faire société, mais aussi on va nous détruire de l'histoire, du lieu, en fait, local.
Donc toi, comme des centaines de personnes, peut-être tu as un petit lopin depuis combien de temps ?
Oui. Alors moi, je ne l'ai pas depuis très longtemps, parce qu'en fait, je suis arrivée au moment de la lutte, en fait. Je suis arrivée au moment du confinement de 2020, et en fait, la lutte, elle commence à l'été 2020. Tu vois, je suis arrivée pour apprendre que ça allait être détruit, en fait.
Donc dans votre histoire, je crois savoir qu'en fait, il y a eu des recours, vous aviez même gagné à un moment. Il y a donc une obligation de remise en état, c'est ça ?
On a beaucoup gagné, en fait. En fait, on n'a pas perdu grand-chose. La seule chose, c'est que notre temps à nous, les militants et les jardiniers, c'est pas le temps de la justice, et qu'on a gagné contre le PLUI, on a fait tomber le plan local d'urbanisme intercommunal, ce qui était une très grosse victoire, sauf qu'on a mis un an pour faire ça. Et qu'entre-temps, ben, ils avaient décaissé de 4 mètres ces fameux 4000 mètres carrés où ils voulaient construire un solarium. Et il y a eu 2 modifications du permis de construire, et on a gagné, il n'y aura plus de solarium.
Le solarium ne va plus se faire, mais les jardins sont...
Jardins sont détruits, et là, le projet que porte la municipalité, c'est un jardin arboré. Donc nous, on aimerait bien, enfin, ce sera la suite de notre lutte, être dans un... dans quelque chose de commun, d'en construire un commun sur ces jardins qui ont été détruits, qu'on nous les remette en état et que là, on fasse du jardinage collectif avec les écoles, qu'on montre aux gamins comment on fait pousser les choses qu'on mange.
Ça veut dire que tout le chantier qui était prévu à cause de cette destruction, finalement, ne va pas se faire ?
Non, ça ne fera pas. Non, ça ne fera pas parce qu'on a gagné et du coup, il y a eu 2 modifications de permis de construire et le juge a dit... le centre nautique et puis maintenant la gare, parce que maintenant on est dans la lutte pour la gare, enfin contre la gare gigantesque, le juge a dit ces zones de construction doivent être réduites au strict nécessaire. Et donc un solarium, c'est pas le strict nécessaire.
Donc là, tu dis que la lutte pour l'instant, donc tu parles de cette gare là, c'est quoi ce projet ?
Alors c'est la ligne 15, donc ça, une gare de la ligne 15. Nous on savait depuis le début hein, qu'on allait avoir à se battre contre ça.
C'est une ligne de métro, c'est ça ?
C'est une ligne de métro, tu sais, c'est le Grand Paris Express.
Ici à Zaclay, on est sur la 18, c'est ça ?
Voilà, et ben nous on est sur la 15. Elle va, elle vient du Val-de-Marne et elle va jusqu'à la Défense et donc elle passe au fort d'Aubervilliers, juste à côté des jardins. Et le projet de départ l'été dernier, c'était de nous dire qu'ils allaient détruire 5000 mètres carrés de jardin à nouveau. Alors ils comptaient en rendre une partie. Et donc il y a eu, je dirais, une petite mobilisation de notre côté médiatique, citoyenne, etc. Et puis ils ont fait tout seul marche arrière, la Société du Grand Paris, parce que ils savaient que ça tiendrait pas devant le juge, en fait, qu'ils pourraient pas justifier devant le jugement qui dit le strict nécessaire, leurs 5000 mètres carrés, parce qu'on sait que c'est pas le strict nécessaire. On sait qu'ils prennent très large. Et on sait, et on l'a dit dans les médias, que c'est complètement, je vais employer un mot dégueulasse, quoi, de mettre du stockage chantier sur des jardins. On leur a dit, nous on propose. Alors, il y avait une partie construction, une partie stockage chantier. Et tout ça, ça faisait 5000 mètres carrés. Et on leur a dit, mais les gars, stockage chantier, il y a plein d'autres solutions. Donc ils ont tout seul un peu poussé, ouais. Et ils sont descendus de 5000 à 2300 mètres carrés là en en début d'année, genre début février. Voilà. Ce qui est déjà une grosse victoire. On a remercié d'ailleurs. On leur a dit merci. On leur a dit c'est bien. Et puis là, on est encore dans des négociations avec eux, avec la Société du Grand Paris. On a bon espoir, voilà, qu'on puisse arriver à vraiment ce strict nécessaire, parce que nous, on part vraiment du postulat aucun jardin détruit, et on négocie. Et ils ont bougé leur... ils arrivent à bouger les choses, tu vois, le stockage chantier, ils l'ont mis en partie sur l'avenue. Enfin, ce qui est fou, ce que moi je trouve fou dans cette histoire, c'est quand même que si on ne s'était pas mobilisé, ils auraient détruit 5000 m2 de jardin, ça ne leur pose pas de soucis en fait. C'est ça qui est très... je trouve ça très perturbant, moi. Cette idée qu'il faut qu'on les arrête, quoi. Il faut qu'on les arrête, que spontanément, ça leur... pour eux, c'est normal, en fait. C'est ça qui doit changer. C'est qu'en fait, la terre, elle doit devenir plus précieuse. Et on doit obligatoirement chercher à faire autrement. Moi, je suis hyper choquée. Je suis vachement contente d'être là, à Zaclay. Mais j'étais hyper choquée en venant, parce que ça fait plus d'un an que je ne suis pas venue. Et en venant, c'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur, parce que tu vois tout ce qui a déjà été bétonné. Bah,
décris ce que tu as vu, justement.
Je sais même pas comment le décrire. Ils ont construit un immense mur en béton. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Je pense que derrière, ils ont déjà bétonné. Et puis, il y a cette espèce de truc volant, là.
De viaduc.
Ouais, c'est ça, de viaduc. C'est que du béton, en fait. C'est du béton, du béton, du béton, du béton. Et de temps en temps, ils plantent, parce que je pense qu'ils ont dû descendre un certain nombre d'arbres. Donc, en fait, il y a des tout petits arbres plantés partout.
C'est ça, ouais. Donc, c'est la compensation.
Et je me dis, tu vois, ici, c'est des terres fertiles. C'est des terres importantes pour nourrir la région Île-de-France. Paris a 3 jours d'autonomie alimentaire si on n'a plus de pétrole. Je ne comprends pas qu'on puisse continuer. Enfin, c'est pas un monde désirable pour le futur. Comment on peut continuer ça? Comment on peut les laisser? Donc il faut vraiment que la mobilisation, elle s'amplifie. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de... Quand je vois ce qui se passe là aujourd'hui à Zaclay, et puis dans toutes les luttes locales un peu partout, j'ai l'impression qu'il y a quand même une mobilisation avec de plus en plus de gens qui disent non, quoi. On peut pas laisser le système capitaliste nous dicter notre futur, en fait. Que notre futur, ce soit que de l'extractivisme, du béton. On veut pas de ce futur-là, en fait.
Et est-ce que, avec le recul de la lutte à Aubervilliers, ouais, par rapport à ce qui s'est passé aussi à Sainte-Soline, t'as l'impression qu'il y a eu quoi? Une prise de conscience? Qu'il y a des gens qui se réunissent un peu plus? Ou est-ce qu'il y a des gens qui ont peur aussi? Parce que tout ce qui s'est passé à Sainte-Soline...
Moi, je pense que Sainte-Soline, ça a quand même été comme un espèce d'électrochoc. Parce que tu vois, là, il y avait des gens qui luttaient pour un bien commun, pour l'eau, qui voulaient aller se rapprocher d'une bassine qui est un peu tout le symbole, en fait, de ce qu'il ne faut pas faire. Et on les a reçus, on les a gazés, on a balancé des grenades, on a blessé des gens, il y a des gens qui sont dans le coma, il y a des gens qui vont en garder des séquelles et tout ça. Je trouve ça hyper choquant, quoi. Je me dis, mais ceux qui ne sont pas encore mobilisés, il faut que la mobilisation s'étende. On ne peut pas laisser... c'est impensable.
Au niveau de l'Île-de-France, il y a donc cette coordination des luttes en Île-de-France. Qu'est-ce que tu en penses? Comment ça fonctionne?
Moi, je vais parler pour les jardins. Ce que je disais tout à l'heure dans le groupe de travail dans lequel j'étais, c'est nous, on a eu beaucoup d'actions où on a eu d'autres collectifs qui sont venus nous rejoindre. Après, on a peut-être la chance d'être plus près de Paris, tu vois, que ce soit plus fastoche. Mais on a fait des manifs où il y avait tout le monde qui était représenté. On a fait de la désob. Enfin, on a fait des tas de choses avec tout le monde. Et c'est très important d'être tous ensemble, de se soutenir, de faire nombre, faire des actions en force. Mais c'est aussi, et ça, je pense que c'est très important, en tout cas pour nous à Aubervilliers, d'être dans un ancrage local très fort, d'avoir des habitants. Nous, on est habitants, en fait. On est autour des jardins, d'être habitants, d'être jardiniers, d'être mobilisés et d'être face à face avec la Société du Grand Paris, quoi. D'être là. Nous, on est là. On est localement... la lutte, elle est locale.
Il ne faut pas oublier aussi que sur la GED, Aubervilliers, il y a aussi de la répression. Pas au même niveau que Sainte-Soline, évidemment.
Pas au même niveau que Sainte-Soline, mais il y en a eu. Hein. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, hein, loin de là. On est pas mal à avoir été en garde à vue. Certains ont été en procès. Voilà, on a été au moment de l'évacuation. Après, on est un certain nombre à être retournés sur les lieux parce que c'était trop difficile. de partir, quoi. Et puis, sentimentalement, on est très fortement attaché à ce lieu. Et la violence, elle était autant symbolique, parce qu'on a assisté à toute la destruction extrêmement rapide, qu'à une certaine forme de violence des forces de l'ordre qui contrôlaient les portes. Il y avait des vigiles partout. On a eu des contrôles d'identité tous les jours. C'en était même risible, en fait. Hein. Voilà.
Il y a encore un dispositif là-bas sur place ?
Non. Là, c'est fini. Non, c'est totalement fini. Parce qu'en fait, à partir du moment où cet épisode que je te raconte là, s'est arrêté au moment où le permis de construire a été suspendu. Et après, toutes les procédures judiciaires se sont enclenchées. Puis après, on a été dans un long tunnel de lutte juridique qu'on a gagné. Et du coup, il n'y avait pas lieu de se remettre, tu vois, de s'accrocher aux bétonneuses. Il n'y avait pas lieu, quoi. Voilà. Mais en face, je pense qu'ils savent de quoi on est capable. On leur a dit, d'ailleurs. Hein, c'est pas maintenant qu'on va faire. Oui, la Société du Grand Paris.
Oh, ouais, qui sont vos interlocuteurs dans ce cas-là, alors ?
Eh bien, là, on a. Je ne vais pas pouvoir te répéter tous les noms, parce que je suis assez mauvaise dans les noms.
Non, je m'en fous, mais des reportages.
Alors, c'est la directrice de la ligne 15.
D'accord.
La directrice de la ligne 15, ouais, c'est avec elle. Et son adjointe, ou qui bosse avec elle, qui est ingénieure. Et il y avait aussi l'adjointe de l'adjointe. Et il y a aussi une société externe qui est chargée de la négociation. Tu sais, avec les différentes parties, quand tu vois par exemple la ligne 15, ça détruit les pavillons à Bondy, bon ben voilà, négocier avec les gens qu'on expulse. Voilà, donc c'est un groupe de personnes qui est en charge de ça. Et voilà.
Et la lutte sur place, tu sens qu'il y a des gens qui sont partis, ça s'est un peu délité, ou au contraire tu sens que...
Ah non, pas du tout, ça s'est pas du tout délité, c'est-à-dire que la lutte, ce deuxième acte de la lutte par rapport à la gare, en fait, elle se déroule de manière extrêmement différente de la première.
On vous prend plus au sérieux, on dirait, non ?
Bah ouais, on n'est plus du tout dans la même position. C'est drôle, d'ailleurs, de voir ça. Alors, je pense que c'est en partie dû au fait que la Société du Grand Paris ne se comporte pas du tout comme s'est comporté Grand Paris Aménagement, mais la Société du Grand Paris... Madame Sourdeau, pour ne pas la nommer, là, qui est la directrice de la ligne 15, elle dit que pour eux, c'est plus facile parce qu'ils ont l'antériorité de ce qui s'est passé. Ils savent de quoi on n'est pas capable. Donc, du coup, voilà, on leur dit clairement en réunion, voilà, nous, si on n'est pas satisfait, on attaquera, on va attaquer le PLUI et on mènera toutes les actions nécessaires. Donc, elle le sait, ça. Voilà, ils le savent. Et ils nous ont dit, redit, eux, ils veulent être dans la négociation. Je pense qu'ils n'ont pas envie... ils n'ont pas envie de reproduire ce qu'a fait Grand Paris Aménagement. Et donc là, c'est drôle parce qu'on est dans la négociation. T'as des jardiniers, t'as Yvan, du collectif, qui est l'architecte du collectif. Donc on est un mix de gens du collectif et de jardiniers. Et oui, c'est peut-être ça, tu as raison, on nous prend au sérieux parce qu'on sait ce qu'on a été. Enfin, ils savent ce qu'on a été capable de faire.
Et vous étiez que des zadistes clowns, des empêcheurs de bétonner en rond, tout simplement. Et puis là, ça commence à devenir un peu plus.
Ouais. On était vraiment extrêmement méprisés par Grand Paris Aménagement, mais vraiment, c'est le terme, quoi. Grand Paris Aménagement n'avait que du mépris pour nous. Voilà. Donc, moi, je suis très.
C'est quoi la distinction de Grand Paris Aménagement ?
C'est pas la même chose du tout. Grand Paris Aménagement, c'est une agence de l'État. Ça existe depuis plusieurs dizaines d'années. Et ils aménagent, en fait, le pourtour de Paris. Donc, c'est eux qui aménagent donc, la ZAC du Fort d'Aubervilliers. C'est eux qui aménagent pour la piscine là, d'entraînement olympique. Tout ça, c'est eux qui sont en charge de cet aménagement. Et la Société du Grand Paris, elle n'est en charge que des gares et des lignes de métro. C'est pas du tout la même...
Mais c'est les mêmes sociétés d'aménagement qui sont ici aussi à ZAC.
Bah ouais, c'est ce que je me dis. Et du coup, je trouve très dommage... qu'il n'y ait pas d'espace de partage et de parole et d'échange parce qu'on fait la ville tous ensemble. Il faut faire la ville avec les habitants, il faut faire la ville avec cette pensée d'un futur désirable. faut pas faire la ville qu'avec des gens qui construisent des gares et des métros et qui bétonnent des champs où on fait pousser des choses pour manger. Faut pas faire la ville qu'avec ces gens-là, quoi.
Et les JO, alors, tu penses que ça peut être aussi une dimension un peu supplémentaire qui pourra aider les gens à se bouger ou ça sera peut-être aussi plus dur de lutter, parce que les JO, c'est un truc...
Alors nous, c'est clair qu'au départ... cette piscine, c'était une piscine d'entraînement pour les JO. Donc en fait, l'espèce de boom médiatique qu'il y a eu autour de nous au départ était quand même pas complètement en lien avec ça, mais un peu.
Bah oui,
c'est-à-dire que moi, je demandais toujours aux journalistes, parce qu'on était un peu noyés par les journalistes, et je leur disais, mais pourquoi vous vous intéressez tant à nous, en fait? Et en fait, ils répondaient deux choses. Parce que les JO, parce que quelque part, finalement, vous vous opposez à un équipement des JO et parce que vous êtes le petit Pousset ou vous êtes David contre Goliath, etc. Donc c'est ça qui les intéressait, c'est qu'on était tout petits. Parce que nous, on est tout petits par rapport aux champs ici, tu vois. C'est, nous, c'est 2 hectares 25, c'est vraiment dérisoire, tu vois. Ici, c'est des hectares et des hectares. Et donc ça paraissait personne. Je pense que personne n'aurait mis un copec sur le fait qu'on gagne. Tout le monde nous disait qu'on allait perdre, en fait. Tout le monde nous disait ça. Et puis au final, non, on a gagné. Voilà, on a la chance d'avoir un avocat extraordinaire. Donc, je vais le citer, c'est Pierre Eddy, et qui je pense, œuvre beaucoup au fait qu'on a gagné. Et on a beaucoup travaillé avec lui, en fait. Les mémoires, on les a construits en commun. Et puis on a la chance d'avoir plein de gens mobilisés localement. Enfin, on a un collectif. Enfin voilà, c'est une espèce d'alchimie entre plein de trucs qui fait qu'on se retrouve là dans cette position où on s'est dit, bah, nous, on va aider la Société du Grand Paris à faire mieux.
Ouais, c'est ça, c'est la co-construction, c'est ça?
C'est la co-construction. C'est la co-construction. Mais ça devrait toujours être comme ça. Ça devrait toujours être comme ça, on devrait pas. Moi, je me dis, il faudrait un texte de loi qui dise, bah, quand vous détruisez des terres qui servent à se nourrir, qui servent à respirer, eh ben, vous devez co-construire. Vous devez vous poser pour réfléchir, vous n'avez pas le droit de le faire comme ça, c'est interdit. Enfin, je rêve peut-être un peu, mais il faudrait que ce soit comme ça, en fait.
T'as passé combien de temps ici? T'as passé le week-end entier ou...
Non, je suis arrivée que ce matin, en fait, j'ai pas pu.
Qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui? Est-ce que t'as...
Bah, j'étais déjà venue, hein. J'ai appris un truc triste, bon, je le savais déjà, mais le fait que le camp va être démantelé.
Il y a cette menace d'expulsion au 5 juin. Menace, hein.
Et donc ça m'attriste. T'apprends toujours, en fait. Hein, t'apprends. Là, ce qu'on a échangé pendant le groupe de travail, auquel moi je crois beaucoup, c'est-à-dire qu'il faut que la lutte se soit festif aussi. Il faut qu'on fasse envie. Il faut que les gens viennent nous rejoindre. Il faut qu'on soit dans la pédagogie. Il faut qu'on explique. Il faut qu'on parle. Nous, on essaie de le faire beaucoup dans les quartiers, sur les marchés, dans les tours qui nous entourent, les jardins. C'est hyper important qu'on va y arriver tous ensemble.
Ouais, une ZAD, c'est la fête, c'est un peu la vie. Il faut que ça soit la joie aussi. Hein,
c'est la
sinon,
joie.
Hein.
C'est la joie, voilà. C'est
joie. Peut-être en parler à M. Darmanin, mais lui, je crois qu'il a d'autres choses.
Il a d'autres choses, et donc il veut supprimer les ZAD. Ça déclenche autre chose. Mais il ne doit jamais être venu sur une ZAD, en fait. Il ne sait pas que la ZAD, c'est un truc festif, c'est un truc joyeux. C'est des gens qui sont mobilisés pour un futur meilleur, mais pour tout le monde. Moi, je dis toujours, dans les visites que je fais au jardin, je dis, mais moi, je ne lutte pas pour moi, en fait. Parce que moi, je serai morte et les jardins existeront encore. C'est pour que les jardins existent pour le futur. Donc, faut inviter Darmanin. Nous, on a dit à la Société du Grand Paris que quand on aurait fini les négociations et qu'on aurait gagné, quasi, on ferait une grande fête et qu'on les inviterait.
On verra si... Il fallait compter le nombre de personnes qui viennent de chez eux.
Voilà.
À Gonesse, il y a encore les soirées au Kissy.
Ah oui. Ah oui, mais tout ça, j'en parle même pas parce que tout ça, je connais très bien. Tout ça, je connais très bien. La gare. Bernard, ouais, il faut que tu ailles voir Bernard. Il y a la gare. Il y a un collectif qui se monte par rapport au doc, là, Green Doc. Tu sais, le fameux truc à Saint-Ouen, là. Okay. C'est atroce, ce quartier. Donc là aussi, ils sont mobilisés. Il y a un collectif Berge de Seine aussi qui s'est monté. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une foule de petits collectifs qui se montent.
Les journées comme ça, ça sert aussi à resserrer ces liens-là, quoi.
Ça sert à ça. Et ça sert à ce qu'on se parle, qu'on voit qu'on est plus fort ensemble. Et puis nous, du fait qu'on a gagné, je pense qu'aussi, on est super contents de dire, eh ben, vous voyez, si vous vous mobilisez, vous pouvez faire tomber un PLU. Ça, c'est incroyable.
ça, faut attaquer le PLU, il tombe.
Il peut y avoir pas mal de regrets sur le fait que finalement ça a été quand même détruit.
C'est arrivé trop tard.
Ça veut dire que mine de rien...
Il faut plus d'un an pour juger le PLU. Alors le temps des bétonneurs, c'est pas le temps des militants en fait. Donc ça va pas assez vite la justice. Et ce qui est assez cynique en fait, c'est qu'on a gagné sur exactement les arguments de début, quoi. Les juges ont repris tous nos arguments qu'on avait depuis le début de la lutte, hein. Le SDRIF, l'autorité environnementale et tout ça. Et donc du coup, tu te dis quand même, quoi. Ça veut dire qu'ils se sentaient, Grand Paris Aménagement, vachement autorisés au-dessus des lois, etc. Ils se sentaient tranquilles.
Ça veut dire que toutes les instances qu'ils ont mis en place pour soi-disant co-construire, faire ça avec les habitants, si le temps judiciaire et répressif aussi n'est pas le même,
ouais.
Tout ce qu'ils ont mis en place ne sert que à baliser les décisions déjà prises.
Oui, et puis je reprends le mot cynisme, c'est d'un cynisme absolu. C'est-à-dire, ils mettent en place des instances qu'ils ne respectent pas. Parce que nous, on a dit, mais attendez, on a rencontré hein, les gens de Grand Paris Aménagement, on a rencontré beaucoup la sous-préfète, quand même eu des négociations, hein, dans le premier round, je dirais, il y a eu plein de négociations. Et à chaque fois, ils nous disaient, oui, mais vous comprenez, on ne peut rien faire. Ça, c'était le grand truc. Tout est décidé, on ne peut rien faire, on ne peut absolument pas revenir en arrière. Et de toute façon, toutes ces le SDRIF, etc., c'est que consultatif. Et en fait, on s'est rendu compte que non, parce que le juge s'est appuyé, les juges, parce qu'ils se sont mis à beaucoup de juges pour juger, se sont appuyés dessus pour dire, ben non, le SDRIF, il a dit qu'il fallait pas détruire les jardins. Parce que il y a aussi un truc dont on parle moins, c'est qu'au début, il y avait une zone un peu floue, mais qui existait bel et bien dans le PLUI, qui s'appelait la zone UM, urbanisation mixte, qui était derrière la Jade, un machin genre, on est rentré, on poursuit, où ils auraient pu construire des hôtels, des bureaux, des commerces. Tu vois, okay. Et ça, le juge a dit, les gars, la zone UM, vous la ferez pas. Okay. Vous la ferez pas. Donc, déjà rien que ça, si tu veux, c'est. En tout cas, pour nous, toute petite lutte, c'est une énorme victoire. C'est une énorme victoire. Et je voudrais des victoires partout. Quoi.
Ouais.
Je rêve qu'on se dise, on peut faire autrement. Enfin, que les gens, les décideurs et tout ça se disent, bah oui, c'est vachement important de garder les terres fertiles. Ici, on est sur des terres extrêmement fertiles, comme sur Gonesse.
Exactement.
Comme sur Gonesse. Eh ben, on les garde et on va faire autrement. On va faire autrement.
Merci, Dolores.
Eh ben, merci à toi.
On a
4
places pour Aubervilliers.
Voilà pour ce qui se passe à Aubervilliers. Le jardin des vertus veille toujours au grain. Nous avions consacré d'ailleurs une émission sur ce combat en avril 2021. Les archives à retrouver sur notre site sourier.info. Concluons cette escapade avec Sabrina, l'une des militantes historiques des luttes sur le plateau de Saclay.
C'est assez symbolique et même si en même temps on a posé des actions concrètes, on a quand même voulu, enfin c'était hyper symbolique d'une part parce que c'est le même week-end que les 20 ans de la MAP des Jardins de Cérès, qui est une AMAP historique en Ile-de-France et même en France. C'est une des premières AMAP de France. C'est la MAP qui a amené le couple d'agriculteurs qui nous accueille vers une agriculture paysanne. Donc c'est fort de symbole aussi, les 20 ans de cette AMAP. Et la volonté des personnes qui ont créé cette AMAP, c'était déjà de préserver les terres du plateau de Saclay, déjà de changer leur vocation d'une agriculture intensive vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement, de l'humain, de la biodiversité, du vivant, quoi, en gros. Et du coup, voilà, ça, c'était déjà quelque chose un symbole fort. La marche aussi, elle a posé quelques petits gestes forts. Je pense qu'elle a posé des gestes forts qui parlent à différents types de militants, avec différents types d'actions, d'approches du militantisme et de l'engagement. Et voilà, et puis aujourd'hui... Donc on a encore continué avec une action de désobéissance civile puisqu'on a été placer une charpente, enfin une grange paysanne sur le tracé du tronçon ouest de la ligne 18, là où on demande l'arrêt en fait de cette ligne pour préserver ce qui reste de terre fertile du plateau de Saclay. Et puis bah, bien sûr l'Assemblée des luttes locales d'Île-de-France avec une volonté de convergence, de rassemblement fort, d'augmenter nos forces en se connaissant, en ayant des relations de confiance, d'amitié, etc. Voilà, et puis bien sûr, C'était un week-end festif, sympa, où on a dansé, on a chanté. Donc je trouve que il y avait plein de trucs différents à faire. Il y avait de la menuiserie, des pancartes, de la couture.
C'est pas fini encore, il y a la semaine prochaine.
Et il y a la semaine prochaine, oui, où il y a la semaine de l'agriculture paysanne sur le plateau de Saclay. Et là aussi, il va y avoir des moments forts. Et tous les jours, on va continuer à travailler sur la grange. On va visiter une ferme sur le plateau de Saclay. On va proposer des ateliers d'autonomisation, fabriquer des petits trucs, voilà. Le vendredi, une projection d'un film avec l'association A4, dont l'objectif est de faire le lien entre les migrants et sans papier notamment, et les terres et les exploitations agricoles qui peinent à recruter et qui sont en difficulté parce que justement il n'y a pas de main d'œuvre. Voilà, avec des personnes qui viennent souvent de zones rurales et qui se retrouvent dans les villes parce que c'est le lieu où on atterrit quand on est exilé, mais qui ont peut-être plus la vocation, mais en tout cas qui sont des gens qui sont plus des ruraux, quoi, et qui se sentent mieux finalement dans une vie à la campagne, qui connaissent le travail de la terre, qui peuvent apprendre beaucoup aux agriculteurs ici, notamment sur la gestion de l'eau ou des cultures en milieu aride, etc. Enfin voilà, donc il y a une projection d'un documentaire de cette association et des témoignages de personnes qui font partie d'A4, des personnes exilées qui font partie d'A4. Donc ça sera le vendredi. Et le samedi, il y a un grand rassemblement avec pas mal de discussions et d'initiatives locales, comme le groupe pour la sécurité sociale alimentaire et un tas de choses comme ça.
Et comment tu t'es investi là-dedans, toi? Comment c'est venu?
Moi, en fait, j'habite dans le coin depuis longtemps. J'ai fait partie des personnes qui ont créé la map de ces jardins de service, mais j'ai fait partie des premières centaines d'adhérents, on va dire. Après, j'ai fait partie de la SCI Terre Fertile, parce qu'à un moment donné, on avait racheté des terres, une bande de terre qui est en face, là, justement pour la sauver et s'assurer que les agriculteurs qui nous hébergent puissent continuer à la cultiver, parce que si elle... Enfin, voilà. Il y a eu ça, et puis bon, voilà, de fil en aiguille. Après, moi, j'ai pas mal milité aussi en vallée. Ça pouvait être sur des mouvements écologistes, mais politiques aussi. Donc voilà, c'est assez naturel, c'est venu très naturellement.
Un petit dernier message à passer?
Le message que j'aimerais faire passer, c'est que les agriculteurs qui nous accueillent commencent à subir de fortes pressions. Ils nous demandent de partir parce qu'ils n'ont pas envie de faire face à plus de pression, à des amendes exorbitantes, des procédures juridiques qui peuvent être longues et exténuantes. Et donc, ils espèrent qu'on... Enfin, ils nous demandent de partir à la date à laquelle qui a été négociée avec le procureur. Donc le message, c'est on va sûrement avoir besoin de monde, on va sûrement poser des actions tout en essayant de protéger les agriculteurs et agricultrices qui nous accueillent au maximum. Mais on va quand même poser des actions, ça c'est sûr. Où, comment, quand, pourquoi, pour l'instant on n'en sait rien. On était vraiment concentrés sur ce moment-là de ce week-end, donc on n'a pas encore élaboré la suite. Mais voilà, ça va venir et on va avoir besoin que tout le monde revienne nous soutenir. Voilà.
C'est ouais, ça. Éventuellement retrouver un lieu, peut-être éventuellement.
Éventuellement retrouver un lieu ou d'autres choses, mais voilà, je pense ça va nous pousser à réinventer un peu nos modes d'action, à repartir sur d'autres choses. Voilà, aujourd'hui je parle vraiment comme ça sans savoir.
Ok, ouais, je vois. Non, c'était l'essentiel, c'était quand même que ça soit réussi ces deux jours, que la semaine prochaine aussi il y ait encore du monde. Et après les échéances, on verra peut-être un peu plus tard. En tout cas, faites les bons relais et on sera là. Merci, voilà. Sabrina.
Merci beaucoup, merci d'être là.
On est là-bas, de l'autre côté du chantier. Cette grange, elle a été faite à la main et elle a été faite en tenue martel.
Voilà, c'est terminé. Merci aux organisateurs de ce rassemblement sur la ZAD de Saclay. Pour vous tenir au courant des prochaines échéances, et notamment la menace de devoir déménager début juin, branchez-vous sur leur site nonalaline18.fr. À propos des jardins des vertus dont on a parlé, leur site c'est simplement jardinaubervilliers-ni-espace.fr. Les amis d'Orwell, c'est terminé. Donc, retrouvez toutes nos émissions sur le site de Souriez, vous êtes filmé, souriez.ez.info. Prochaine émission dans 2 semaines. Bonne fin de soirée à l'écoute de Radio Libertaire.
Sono le 22:30.
tu cherches la joie devant la mort, tu es sur les bonnes ondes. À The Past Non Radio Show, ça commence maintenant, là, tout de suite, sur Radio Libertaire. Nous sommes de nouveau en direct après avoir retrouvé Jet, des amis, Norwell, la joie devant la mort. C'est la bonne station de radio que tu es en train d'écouter. Oui, parce que je suis revenu d'entre les morts, j'y ai fait un passage. Pas très long, hein. Pas très très long. Mais bon, quand même. C'était pas l'heure.
Ah, voilà, c'était pas l'heure.
C'était pas l'heure. Salut, le Muppet Show.
Oui, 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 salut. Oui, bonsoir, Henrik. Oui.
Encore un vendredi avec le Muppet Show. À ma droite, il y a...
oui.
Guy.
Voilà. Salut à tous.
Bonjour. Salut. Et à ma gauche, il y a Yves.
Bonjour.
J'allais dire Marc. Je sais pas pourquoi. Bon, salut, bonsoir tout le monde. Alors.
Bah alors,
on a des nouvelles.
Alors, ma voix s'améliore.
Ah.
J'ai un peu de mal encore. Alors, j'ai pas parlé pendant des heures pour essayer de la préserver, mais elle est en train de s'altérer. Donc, elle est un peu moins claire que...
tout à l'heure, ouais, c'est pas grave. Oui.
Disons qu'elle s'altère au fur et à mesure de la journée.
Mais oui, oui.
Elle est un peu plus claire en début de journée. Et même si je ne parle pas pendant plusieurs heures, elle finit par être complètement rouillée en soirée, quoi. C'est assez... j'ai du mal à la garder, quoi. Enfin, voilà. De toute façon, ça va être l'heure de la... du marchand de morphine qui va passer. Ça ira mieux juste après. Donc, les chers amis, ce soir, nous avons des sujets de lecture, de réflexion.
Ah oui, oui, oui.
Des trucs bien plombants, ils vont faire chier les auditeurs.
Heureusement
qu'il y a une superbe programmation musicale ce soir.
Il tire pas la couverture à lui. Enfin bon, c'est lui qui fait l'émission, on peut pas râler. Hein,
donc oui.
Oui.
Alors.
Ah bah ça c'est sûr. Allez, vas-y.
Avec...
passe-toi de la pommade.
Bah merci. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il est désagréable, ce monsieur. Donc, je disais, quelques titres 2022 plutôt et 2023 dans ce qu'on vient écouter de Soft Pink True. Alors donc, est-ce qu'on commence tout de suite?
Ou alors on retourne prendre un café, c'est ça?
Non, le café, on peut le boire pendant qu'on...
Tu veux passer de la musique?
Non, allons-y, commençons.
On peut le boire pendant qu'on cause, le café?
Oui, ben on t'a entendu. On t'a déjà entendu boire ton café.
C'est vrai?
Pour les auditeurs qui n'aiment pas les bruits...
Ah,
Il
y en a?
De consommation...
Et ben on va les servir.
De nourriture, ils sont gâtés.
On va les servir, oui, oui.
Il y en a, ils sont gâtés. Allez, Guy... Tu veux...
Oui, je veux lancer l'ambiance.
Ouais.
C'est juste un... C'est même pas un article. Enfin, c'est un article là, dans Le Monde Libertaire, mais c'est sur les bassines. Ah, mais à l'occasion,
les bassines.
À l'occasion que ça soit sur les bassines, c'est pour donner une indication comment les flics, quoi, tout simplement, la police, travaillent pour essayer de retrouver et de mettre la main sur des manifestants, tout simplement, quoi.
Ouais. Avec le fameux gaz qui se colle à la peau, c'est ça?
Ben non, là, j'ai peut-être pas tout lu, hein. Mais il y a déjà un truc très très simple, là. Celui qui écrit, oh bah c'est un groupe, hein. No Bassaran. Ah oui, les bassines, donc No Bassaran. Oui, bon. Et donc,
c'est fin.
Voilà, oui, voilà ce qu'il dit.
Ils sont fins, les militants.
Il dit que donc la police, tout ça, vont tout faire pour intimider les manifestants. Il dit c'est pas grave, le pouvoir chie dans sa culotte. Voilà, les flics, pour être des bœufs, ne sont pas complètement des ânes. Regardez-les dans les yeux, faites-leur chier la honte d'être les larbins au lieu d'être des gardiens de la paix. Rappelez-leur leurs antécédents lors de la rafle du Veldiv. Ils baisseront d'un ton. Et s'ils s'obstinent, n'hésitez pas à crier mort aux vaches. Et alors, on peut parfaitement crier mort aux vaches et être contre les corridas. Hein, d'accord. Alors donc, chef, il est en train de nous embrouiller. C'était Jean-Marc Reynaud hein, qui écrivait ça. Alors il raconte, il y en a un autre qui rajoute un peu sur ce texte-là. on ne doute pas d'un instant que il y en a eu un qui a été retrouvé comme ça, un manifestant. Il dit... Le neveu, il le nomme, hein, c'est un des porte-parole justement des bassines, hein, Julien Leguet. Et ben son neveu, les flics sont venus chez lui le chercher. Ils l'ont entendu justement chez lui, donc trois grands gaillards hein, de policiers. Et puis ils l'ont roué de coups, tout simplement. Multiples fractures, attention. Hein. 15 jours d'ITT.
Chez lui.
Oui. Alors il dit, ben voilà, il dit, ne doutons pas à l'instant de l'efficacité légendaire de la gendarmerie. Auprès de laquelle notre compagnon a déposé plainte pour retrouver les coupables et les renvoyer devant la justice de l'État français. Il dit, quelques jours avant cette arrestation, un camarade du groupe, le groupe Nous Autres, de la Fédération anarchiste, a été convoqué à la gendarmerie de Rochefort. Il lui a été reproché d'avoir collé quelques autocollants, des autocollants FA, Fédération anarchiste, donc lors de la précédente grosse manif anti-bassine, la Rochénard, le 27 mars dernier. Donc, il y a... Ça passe, hein, il y a quelques mois. Alors, les flics ont retrouvé son ADN sur l'un des autocollants. Ils ont tracé son téléphone portable et trois flics à plein temps pendant 8 mois pour débusquer la femme éco-terroriste, comme le dit si mal le violeur d'Armanin. Ah, ils les servent, hein. Alors, ils ont raison. Alors, il s'agissait bien sûr d'une manœuvre d'intimidation colossale. Finesse des laquais de la bourgeoisie, mais bon, on est habitué. Hein. Ouais. Coller des stickers n'est toujours pas répréhensible, hein, bien sûr. Justement, toujours pas répréhensible, mais jusqu'à quand? Voilà, il se pose des questions. Il dit, car la guerre de l'eau est bien déclarée, et par eux, en agressant physiquement des militants ou militantes, eh bien, il faut qu'ils sachent que nous ne lâcherons jamais. C'est tout.
D'ailleurs,
ouais, voilà.
Ils analysent les autocollants.
C'est costaud, hein.
Ils analysent les autocollants pour retrouver les gens.
Ouais, ils mettent des mecs là-dessus qui travaillent. Oh, qui... Oui, non, c'est...
Incroyable.
Oui, c'est la merde, quoi. Oui.
Ouais.
C'est la merde,
tu,
oui.
Tu colles un timbre, ils vont analyser ta salive.
Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est certain.
Et incroyable.
Oui. Enfin bon.
Bon.
On va les envoyer du côté des pyramides, faire quelques recherches, quand même.
Pourquoi?
Là-bas, il y a 10 ans, ça, quand même. Qu'ont 4000 ans, hein.
Ouais. Ils ne cesseront jamais de nous étonner.
Oh là là.
Oh.
Voilà. Pour le...
Ça, j'arrive pas trop à le faire.
ça nécessite de bouger certains muscles du visage qui sont encore un peu Radio Libertaire de Poznan Radio Show. Comme tous les vendredis soirs. Alors, messieurs. Alors, autour de... Ah, c'est le tien.
Bah, je voudrais parler d'autre chose par rapport aux autres fois. J'aurais parlé de fiscalité en France.
Oh, formidable.
Ah, ça va être intéressant.
Ah, oui.
Oh. Oui, je vais d'abord parler de la TVA. D'abord, la TVA, j'ai toujours cru que c'était une invention française, mais non, c'est Wilhelm Siemens et Thomas Adams, indépendamment, qui l'ont inventé, disons. Et par contre, la France a été le premier pays à expérimenter en 48, puis en version plus étendue en 54, et puis ça s'est répandu dans toute l'Europe. Ça n'existe pas aux USA, il faut savoir. Donc l'assiette est un peu plus large que celle des cotisations sociales, et c'est une taxe sur la consommation et non pas sur le revenu. Une personne qui gagne le SMIC, par exemple, elle va donc consommer pratiquement tout son revenu, si ce n'est tout son revenu plus quelque chose. Donc elle va payer la TVA plein pot. Bon. Puis celui qui gagne un peu plus et qui peut épargner, il va gagner, il va dépenser, et donc ça va donner de la TVA pour le budget de l'État. Le but du budget de l'État, c'est de fournir les écoles, les routes, etc. La santé, enfin tout ce qui est financé par l'État et pour tout le monde, donc. Donc il va épargner un petit peu. Alors le petit peu, il peut être dépensé dans les mois suivants ou à l'occasion d'un gros achat, donc paf, TVA, pas de problème. Et puis ça peut être aussi beaucoup plus tard, au moment de sa retraite. Bon, il épargne pour sa retraite, et donc la TVA, bon, on attend, si le gars a 30 ans, on attend 34 ans maintenant pour... qui paye la TVA sur ce qu'il a gagné. Bon, enfin, on attend, bon, très bien. Et puis, si c'est encore plus d'argent qu'il a, eh bien, il va le passer à ses enfants, petits-enfants, et arrière-petits-enfants, si c'est beaucoup, beaucoup. Et on va s'intéresser à ces beaucoup, 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 d'ailleurs. Et donc, la TVA qu'aurait pu payer la personne gagnant ces sommes très importantes, elle va avoir son paiement différé très, très tard. Donc, pour certains au moment de la retraite, et puis d'autres, il y a des transmissions sur plusieurs générations, voire siècles. Et donc, conclusion, les plus riches diffèrent en épargnant cette taxe, tandis que les plus pauvres la payent. Et ça s'appelle un impôt récessif. C'est-à-dire que ça ne touche pas vraiment les plus riches. Ah mince.
C'est vrai, oui.
Ah mince. Et parce que moi, j'ai des souvenirs d'un moment où on discutait sur impôt direct, impôt indirect. Oui. Alors, l'impôt direct, c'est l'impôt sur le revenu, et indirect, c'est la TVA, enfin, parmi d'autres. On discutait qu'est-ce qui est le plus juste. C'est le plus juste, c'est la TVA, parce que plus on est riche et plus on consomme. Oui, mais on ne va pas consommer. Le gars qui gagne 2 millions par mois ou 1 million par mois, il ne va pas s'acheter une bagnole à 30 000 euros tous les mois pour faire plaisir au percepteur et payer la TVA. Il suffira d'une, peut-être une ou deux ou trois ou dix, et puis ensuite, on change de braquet ou on épargne. Et donc voilà.
Donc ils dépensent moins. Oui, oui.
Ils sont moins soumis à la TVA, qui est un impôt sur la consommation, c'est pas un impôt sur le revenu, donc je comprends bien. Mais ils sont moins soumis que la personne qui gagne juste de quoi vivre et qui, à chaque achat qu'elle fait, qui est incompressible, va payer. Alors, il y a plusieurs taux, évidemment, elle va payer par rapport aux autres, elle va payer par rapport à son salaire complet. Martin Luther King disait qu'une justice tardive est une injustice. Bon, alors en plus, la TVA, pour parler sur le fond, j'ai lu un petit bouquin d'un monsieur qui s'appelle Emmanuel Saez et Gabriel Zucman, qui s'appelle Le triomphe de l'injustice. Ah, c'est un titre racoleur, comme certains les aiment, moi pas tellement. Richesse et évasion fiscale et démocratie. Donc je me suis dit, tiens, il est prix Nobel, maintenant, Gabriel Zucman, d'économie. Et donc, intéressons-nous à ce qu'il raconte. Il parle beaucoup dans son bouquin de l'évasion fiscale, notamment. Et il raconte quand même que la TVA, elle est liée, elle est née à un moment où la santé, l'éducation, la finance représentaient une très faible part des dépenses du PIB. Et ces secteurs ne sont pas du tout soumis à la TVA. Et donc, on voit qu'il y a eu une évolution de la société. Enfin, l'assiette de la TVA a pratiquement pas bougé. Il y a eu des ajustements sur le taux, 18%, 21%. Bon, on amuse la galerie avec ce genre de trucs depuis des années. Les cafés, 5%, 10%. Bon, ça va, basta. Ça a créé de l'emploi. Oui, ça en a créé. Non, ça en a pas créé. Ça intéresse tout le monde. La preuve, tout le monde de la télévision en parle. Heureusement, il y a d'autres sources d'information qui sont les bouquins, écrits par des prix Nobel. Et pas seulement les 4 ou 5 reçus en catimini à l'Élysée récemment. Donc, ce qui propose les deux personnes qui ont écrit ce bouquin, là, Saez et Zucman, pour faire vite, c'est un nouvel impôt qui porterait sur ce qu'ils appellent un revenu national et qui serait en fait... qui ne ferait plus de distinction entre les différentes formes d'utilisation des revenus, consommation ou épargne. Bon, enfin ça nous entraînerait trop loin, donc pour l'instant, voilà, je voulais juste dire que la TVA est un impôt récessif, et comme on sait déjà que l'impôt sur le revenu est un impôt récessif, alors là, c'est parce que j'ai lu un bouquin de Piketty qui m'a ouvert les yeux, et c'est parce que j'ai le malheur de lire Le Monde assez souvent, et qu'aujourd'hui, il y a un article, Emmanuel Macron renoue avec les économistes, jeudi 18 et vendredi 19 mai, et alors là, je sursaute, et la question de l'effort fiscal, il y est dit, une note inédite de l'Institut des politiques publiques que l'Obs a dévoilée et que les économistes ont décortiqué devant Emmanuel Macron. Alors les économistes sont Jean Pisani-Ferry, professeur d'économie à Sciences Po, Paris, ancien pilier de la campagne présidentielle de 2017, Philippe Agion, professeur au Collège de France, qui a en partie formé M. Macron à sa ligne sociale-libérale sur l'innovation et la croissance. Pierre Cahuc, expert du marché du travail, dont les travaux irriguent le programme économique macroniste. Et Gilbert Sept, président du groupe d'experts sur le SMIC, qui a soutenu Emmanuel Macron. Donc ces quatre économistes rencontrent pendant près de 3 heures le président de la République et Alexis Kohler, nommé le tout-puissant secrétaire général de l'Élysée dans cet article du Monde écrit par Ivan Trippenbach. Et ce petit paragraphe qui m'a interpellé, c'est « L'Obs a dévoilé que les économistes ont décortiqué devant Emmanuel Macron une note inédite de l'Institut des politiques publiques qui révèle que les 370 familles les plus aisées bénéficient d'un taux d'imposition sur le revenu. » Alors là, il s'agit d'impôts sur le revenu. 370 familles les plus aisées. Moi, je suis imposé à 10% à peu près. Hein. Bon, eux, c'est 2,5% en moyenne. Et les 37 foyers les plus fortunés, 0,26%. Alors...
C'est fort. Oui,
je suis un peu sur le cul. Mais je savais que cet impôt était récessif. En fait, ce que fait Piketty, et qu'ils font un peu aussi là dans ce bouquin, c'est qu'ils partagent la population suivant les gains en grands groupes. Il y a les 50% les plus pauvres, n'en parlons plus, de toute manière, comment dit-on, c'est des gens qui ne sont rien, suivant la mythologie du pouvoir actuel. Oui. Ensuite, il y a les classes moyennes, disons les 40% suivants, et puis ensuite, il reste les 10%. Alors, les 10% les plus riches, il faut encore les séparer en 10, c'est-à-dire il y a les 9% qui viennent après les 40%, ils sont les classes moyennes. Il y a les 9%, puis ensuite il faut rentrer les détails, il faut regarder ce que gagnent les 0,1% les plus riches, les 0,01% les plus riches, les 0,001% les plus riches. Et à ce moment-là, on voit que l'impôt est parfaitement récessif, c'est-à-dire que ces gens payent un impôt qui, bah, écoutez... 0,26% pour les 37 foyers les plus fortunés. C'est à la sorte les côtes de rire, quoi. Voilà. je vais m'arrêter là pour l'instant.
Et alors ceux qui sont à l'Elysée, là, les autres que tu as nommés tout à l'heure, là,
alors,
eux, et c'est pour la Légion d'honneur, non?
Non, c'est eux. C'est eux qui ont conseillé Macron sur sa politique fiscale avant qu'il soit élu, et qui s'inquiètent, au moins pour M. Jean Pisani, du tour que prennent les événements. Et donc, ils alertent le président de ces chiffres. Parce que c'est vrai que le président est très pris, et donc, bon. Mais moi, ce que j'y vois surtout, c'est la façon dont est gouverné le pays. Parce qu'on a une Assemblée nationale, avec des individus qui sont un certain nombre, disons, nombreux. Ils ont donc le temps, normalement, de prendre un dossier et de s'y intéresser. Récemment, il y en a un qui s'est intéressé à l'immobilier, par exemple, sur les radios, parce que personne ne parle de l'immobilier, mais apparemment, il y a un gros problème. En tout cas, le président, je ne sais pas s'il en a parlé, mais je n'ai pas trop capté. Et là, on s'aperçoit de la façon dont fonctionne ce pouvoir. On se réunit à 4 plus 2 égale 6, et on essaie de réfléchir aux problèmes, et ça va sortir de nos cerveaux géniaux. C'est pas ça, la démocratie. I am sorry.
Ok. Ben, nous aussi.
Ah oui.
Allez, musique. le chanteur polonais Piotr Turek, qui contrairement à beaucoup d'autres, lui, sait chanter, a utilisé pour s'amuser sur son dernier album, paru cette année, en début d'année, un logiciel d'autotune qui permet en fait de modifier la voix. Oui, donc, nous en étions sur Radio Libertaire.